comment être sûr de son salut éternel.
Je pensais à deux
témoignages que j'ai lus dans le livre qu'a écrit un entrepreneur des pompes funèbres dans notre région. Et ce monsieur qui est un peu confronté à la mort dans son métier a raconté tout plein de témoignages, et notamment deux témoignages glaçants qui se sont passés dans notre région, petite région catholique du nord-ouest de la Suisse. Un monsieur qui était handicapé depuis des dizaines d'années et qui était en phase terminale, il était en train de mourir d'un cancer. Il était alité, bien évidemment, et à un moment, dans l'hôpital, dans le service où il était, ils entendent des hurlements terribles. Ils vont voir dans la chambre, le monsieur était debout, il hurlait « Au secours, non, non !» Il hurlait à glacer le sang debout, et il tomberait de mort. Qu'est-ce qu'il avait vu? Chacun a son interprétation, j'ai la mienne, je vous la laisse. On a accompagné personnellement des gens, je pense à un de nos amis qui est décédé d'un cancer des poumons. Et cancer des poumons, voilà, c'est quelque chose, on peut mourir étouffé. Et cet ami, il était dans une paix surnaturelle. Et on l'a visité un jour, c'était un dimanche. On a pris un temps avec lui, un temps de prière. On lui demandait comment il se sentait. Est-ce qu'il était sous morphine? Et il nous dit, écoute, j'ai pris un petit apéro ce matin. Un petit apéro de morphine. Donc, une toute petite dose. Et il était dans une... On a chanté, on a loué ensemble. Il y avait une atmosphère céleste dans cette chambre. Et quand on a fini de chanter, une infirmière arrive et elle lui dit à Monsieur Facchinetti, comment vous vous sentez? Et il dit, mademoiselle, après le moment que nous venons de vivre, ça ne pourrait pas aller mieux. Qui lui dit, avec un grand sourire, il était 17h, son épouse reste encore un moment, elle rentre à la maison, elle arrive à la maison à 18h, à 20h, le téléphone sonne, il est parti. Il est parti, ça ne pourrait pas aller mieux. Alors, je vous rassure, il n'était pas shooté avec son petit apéro là. Il était parfaitement lucide et il parlait comme je vous parle. Il est parti dans la paix, dans la gloire, dans l'assurance. Non pas dans l'espérance du salut éternel, dans l'assurance. On a connu d'autres témoignages de personnes, et je pensais, je ne sais plus où on a entendu celui-là, je crois que c'était dans le livre du croque-mort, là. J'avais vu une sœur catholique qui, au moment de sa mort, était dans une terreur extrême. Je n'envisage pas la mort comme ça. Quand tu sais où tu vas, mon frère qui est un chrétien, non pratiquant, vous savez, ça existe, les chrétiens non pratiquants, c'est comme les gens qui vous disent je suis marié tout seul. Enfin, pas tellement ça, mais enfin ça existe. Je suis chrétien non pratiquant, et mon frère, il me disait, mais comment tu peux avoir l'assurance, comment tu peux avoir l'assurance que le jour où tu meurs tu iras au paradis? Comment tu peux avoir cette assurance-là? J'ai dit, Marcel, tu es marié? Mais oui, je suis marié, tu le sais bien. Comment tu as l'assurance que tu es marié? Alors, il voyait bien où je voulais en venir. J'ai dit, mais tu es marié parce qu'un jour, tu as fait une alliance. Et depuis ce jour-là, tu sais que tu es marié. C'est pas l'alliance qui fait que, c'est pas ta bague qui fait que, mais tu sais que tu es marié parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Un jour, j'ai fait une alliance. Lui ne la rompra pas. Moi, je peux la rompre. Je peux la rompre. Je sais que je la romprai jamais. Mais lui ne la rompra pas. C'est ça, l'assurance de la vie éternelle. Et ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de bonnes œuvres. Je ne mérite rien. Personne sur la terre, la personne la plus extraordinaire, la plus bienveillante, ne mérite rien. Ne mérite pas qu'un jour Jésus ait donné sa vie sur une croix pour elle. On ne mérite rien. Mais Jésus l'a fait. On a lu ce matin ces premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, elle était la lumière du monde, la lumière est venue dans le monde, les siens ne l'ont pas connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, Jésus est la parole, mais la parole de Dieu se trouve dans ce livre qu'on appelle aussi la parole de Dieu. À tous ceux qui ont reçu cette parole, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai été chrétien jusqu'à 25 ans. Quand on me demandait, est-ce que tu es chrétien ? Je dis, bah oui, je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été baptisé quand j'avais quelques semaines. Pas grand souvenir, mais j'ai été baptisé. Et j'ai communié, le souvenir de la communion, c'est la montre que j'avais reçue de mon parrain, et puis la paire de pantalons neufs que j'avais reçue de mes parents, ça c'est le souvenir de la communion, et voilà. J'étais chrétien, jusqu'à 25 ans, j'étais chrétien. J'étais un bon catholique qui allait à la messe le dimanche, qui allait à la confesse deux fois par année, et qui faisait sa prière tous les jours. J'étais chrétien. À 25 ans, je suis devenu enfant de Dieu. C'est, mes amis, c'est un autre niveau. Je ne sais pas si les pauvres ou pas. À 25 ans, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et j'étais adopté par le Père. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après. Ça a été une décision. Alors, tout le monde ne l'a pas vécu de façon radicale. Mon épouse, qui est née avec deux ailes dans le dos, quand elle est devenue enfant de Dieu, ça n'a pas été une transformation radicale. On lui donnait déjà le bon Dieu sans confession avant. Voilà, c'est ça n'a pas été spectaculaire, bon, on va dire. Mais ce qui a fait la différence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et mes amis, quelqu'un a dit, la parole de Dieu nous éloigne du péché. Le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Et en 2025, je suis de plus en plus convaincu de revenir à la parole de Dieu, y compris dans les églises, notamment dans les églises évangéliques. Ce que je dis, ce que je prêche, n'a de valeur que si c'est appuyé par la parole de Dieu. Parce que, est-ce que vous savez que Dieu a un problème ? Le Dieu Tout-Puissant qui règne, Dieu a un problème. Quel est le problème de Dieu ? Est-ce que Dieu peut avoir un problème ? Le problème, c'est réservé, des problèmes sont réservés aux humains, normalement. Dieu a un problème. Vous savez ce que c'est ?
Nous ?
Se révéler.
Ses enfants.
Mais encore, Dieu se réjouit de ses enfants, il contemple ses enfants. C'est sa création. Mais le problème de Dieu, c'est notre désobéissance. Notre désobéissance. Depuis le jardin d'Éden, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, 4 mai 2025, et pas beaucoup changé demain, le problème de Dieu avec nous, c'est la désobéissance. Dans Ésaïe 48, 18, il y a beaucoup de versets comme ça. Ésaïe 48, 18, il est super impactant. Dieu dit, ô mon peuple, T'as l'impression que Dieu, il se tape la tête comme ça, il dit, ô mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les fleuves de la mer. Si tu étais attentif. Quand vous lisez l'Ancien Testament, l'histoire du peuple hébreu, on a ça tout le temps. Les gens reviennent à l'Éternel, ils sont bénis, et à la première occasion, bam, coup de volant, et ça repart de l'autre côté, et les malédictions arrivent, et jusqu'à aujourd'hui. Et notre, je dirais, notre appel, notre responsabilité, notre... Le but de ma vie, pour moi, c'est de rester animé, de rester connecté à la parole de Dieu. La parole de Dieu, si... Et j'aimerais vous rendre attentif. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui sont... J'aimerais vous encourager. Je n'aime pas utiliser le « il faut » ou le « tu dois », encore moins le « yaka ». Mais il y a des versets qui sont essentiels, qui sont des versets clés. Jean 8, 31, 32. Jésus dit « si ». Il faut se méfier, quand c'est Jésus qui parle et qui a un « si », c'est intéressant parce qu'on peut un peu aller d'un côté ou de l'autre. « Si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si on s'arrête là, « si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples », ça veut dire que si vous ne demeurez pas, vous êtes le choix, pas vraiment ou vraiment pas. Ça ne change pas grand-chose. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et la suite, vous la connaissez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, en d'autres termes, vous rendra libre. Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons libres, mes frères et mes soeurs, libres. Libres de quoi ? Libres de nos sentimenteurs. De nos sentiments, de nos émotions négatives, libres de l'accusation, libres de la culpabilité, libres de la peur. Combien de gens sont dans la peur aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur aujourd'hui ? Mais on en a 10 000. C'est pour ça, quand on a préparé ce temps avec Jean-Louis, j'ai dit, mais prends le psaume 91. Parce que le psaume 91, tous les enfants de Dieu en France devraient le connaître par cœur. Plus qu'en Suisse. Parce qu'en France, vous avez quand même un peu plus de raison d'avoir peur que chez nous en Suisse. En Suisse, on est encore un peu protégé au cœur de cette Union européenne qui marche sur la tête. On l'a vu, hein, les panneaux des villages français et suisses. Mais le psaume 91, c'est un psaume à proclamer lorsque tu regardes autour de toi. Et que tu te dis, aïe, aïe, aïe. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre, etc. C'est la parole de Dieu, elle sert à cela. Et je l'explique dans ce livre-là, comment la parole de Dieu te donne l'assurance, comment la parole de Dieu te délivre de la peur, comment la parole de Dieu te permet d'affronter des situations difficiles en restant serein, en restant dans la paix. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est impressionnant. C'est impressionnant, je le disais hier soir, il y a deux choses qui sont communes à tous les êtres humains, le besoin d'amour, la soif de liberté. Et combien de gens aujourd'hui revendiquent leur liberté ? À partir de mai 68, liberté sexuelle. Liberté sexuelle, on a vu des personnalités françaises qui revendiquaient leur liberté sexuelle dans les années 70-80, comme ça. Voilà, je suis un monsieur de 50 ans et j'ai des petites amies qui ont choisi à partir de 14 ans. Et ça passait en plateau télévision. Vous voyez à qui je fais allusion. Vous connaissez l'histoire de l'écrivain qui avait moins de cheveux que moi, hein, toujours pas plus, d'ailleurs. Mais la liberté, c'est de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est être libre, ça?
Non.
C'est être soumis à un esprit malin, un esprit qui te centre sur toi, qui dit parce que je suis quelqu'un, j'ai le droit de profiter de l'autre. Ça vient des ténèbres, cette liberté, c'est une tromperie qui vient directement des ténèbres. La vraie liberté, c'est tellement différent. Si vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité. La parole de Dieu, elle m'a appris à aimer mon épouse. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour tomber amoureux d'elle. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, je suis tombé amoureux. C'était dans un dancing, on était en train de danser là, et tout à coup, je la vois et c'est comme si la musique s'était arrêtée. C'est comme dans les films, tu sais, dans le Astérix et Cléopâtre, où tout à coup... Astérix, il voit la fille et t'entends « Ti amo, ti amo, ti » et tout à coup, t'es complètement... Et je l'ai vécu ça. Voilà. Et mon épouse un peu moins, j'étais un peu moins... C'était plus facile pour moi de tomber amoureux de Jocelyne que Jocelyne de tomber amoureux de moi. Mais je l'ai vécu. Le coup de foudre qui dure... l'espace d'un coup de foudre. Et ensuite, t'es dans la vraie réalité. Et avec la parole de Dieu, j'ai appris à aimer mon épouse. Je ne vais pas parler pour elle. Apparemment, je ne suis pas un trop mauvais élève. Après 39 ans,
tu progresses.
Tu progresses. Il y a encore de la marche, mais... on va voir le verre à moitié plein. La parole de Dieu. Mes amis, si vous demeurez dans ma parole, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu? Diriger ses pas dans sa parole. Il y a tellement de versets, je pourrais vous parler toute la journée. Quand la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Garder son cœur. C'est-à-dire aller chez le cardiologue deux fois par année pour être sûr que ça fonctionne. Le cœur, ce sont les pensées. Tout commence par la pensée. Garde tes pensées. À quoi je pense? Comment je nourris mes pensées? Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mes pensées? Est-ce que la peur, la convoitise, l'accusation, est-ce que je laisse une place dans mes pensées? Quelqu'un disait, nos pensées, c'est comme un aéroport. Et des avions tournent autour. Le Saint-Esprit doit être notre tour de contrôle pour autoriser ou non l'atterrissage. Lorsque c'est une pensée qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, va te faire voir ailleurs. Je ne t'autorise pas. Les avions, ils peuvent tourner autour, mais ils ne sont pas autorisés à atterrir. Je parlais avec Christian hier soir et dans une rapide discussion comme ça. Il me dit, j'ai demandé pardon des dizaines de fois à Dieu pour telle situation. Je le rassure, il a tué personne. C'était quelque chose de banal, mais qui n'a pas compris comment gérer. Quand vous avez fait une faute, une erreur, quelle qu'elle soit, quoi que ce soit, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est l'accusation. Toujours en premier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mal fait, tu as, etc. Alors tu te dis, oh là là, ouf, Seigneur, j'ai mal fait, je me rends compte, je ne t'ai pas fait plaisir. Tu demandes pardon. qu'est-ce qui se passe?
Il te pardonne.
Il te pardonne. Mais, alors, puisqu'il te pardonne, pourquoi demandes-tu pardon des dizaines de fois? Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu fais une erreur, une faute, un péché, le doigt pointé sur toi, c'est l'accusation. D'accord? L'accusation, elle vient de où? Est-ce que Dieu utilise l'accusation? L'accusation, il la laisse à l'autre, qui s'appelle l'accusateur. L'accusateur qui, Apocalypse le dit, se tient constamment devant le trône de Dieu, accusé chacun de nous. Je suis avec. Comment ça se passe dans le concret? Tu as fait quelque chose, tu as une mauvaise pensée, une peur qui est arrivée. Ce n'était même pas un acte, c'était juste une peur. Je demande pardon, Dieu me pardonne, mais le doigt accusateur de l'ennemi, de l'accusateur, il reste pointé sur toi. Et tu ressens ça. Il reste, dans tes sentiments, tu restes sous l'accusation. Et tu demandes pardon encore une fois. Et Dieu, il dit, c'est bon fils, je t'avais déjà pardonné avant que tu me demandes pardon la première fois. C'était déjà effacé. Mais toi, la seule chose que tu perçois, c'est ce doigt pointé sur toi. Et tu demandes encore. On a rencontré des gens qui ont dit, j'ai demandé 10 000 fois pardon. Allez, 9999 fois pour rien. Et c'est juste ça, ce point-là, il est super important, les amis, parce que dans les églises, dans le monde chrétien, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sincères, qui sont droits, qui sont intègres, qui sont loyaux, qui aiment Jésus, qui veulent faire le bien, sont sous le poids de l'accusation. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, comment Dieu fait? Quand tu fais une bêtise, comment Dieu fait? Dieu, ce n'est pas un doigt qui tend, qui pointe sur toi. C'est une main. Une main qui te tend. En même temps que le doigt de l'accusateur, il y a la main de Jésus. Une main qui parle. Est-ce qu'une main peut parler? La main de Jésus, elle parle. Vous savez comment elle parle? Elle dit, réfléchis à ça. Elle parle à travers la marque du clou qu'il y a. Et la marque du clou, elle parle. La marque du clou, elle dit, « Hey, Christian, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est bon? C'est bon. » Et toi, tu dis, « Oui, mais j'ai... C'est bon. Hey, » c'est fait là, le pardon il est écrit là-dedans. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, saisis la main. Et je te lève. On va faire. C'est, voilà, tu as saisi la main. Voilà, c'est bon, fiston. C'est bon. C'est pardonné. Waouh! Sauf que l'autre. Il ne te lâche pas la grappe. Il ne te lâche pas la grappe. Et à ce moment-là, il faut dire, oh, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai confessé. Eh, oh, est-ce que tu es sourd? J'ai confessé mon péché, il est fidèle et juste pour me le pardonner et pour me purifier de mon iniquité. Va atterrir ailleurs. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait, mes amis? Jésus a été tenté de la même manière, un peu plus subtil quand même, parce que c'était Jésus, que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comment Satan s'est-il pris dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce que Satan a fait? Comment s'y est-il pris pour tenter Adam et Ève? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Il a mis en doute la parole de Dieu. Il a mis en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont autorisé l'atterrissage et ils ont écouté. Ils ont considéré, ils ont discuté. C'était déjà fini. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été tenté, lui? Il n'argumente pas. Il dit, il est écrit, il, quelqu'un vient de le dire, il cite la parole de Dieu. Il cite la parole de Dieu. Et Satan, là, il sent que, voilà, c'est comme Jésus. Satan, il va utiliser la parole de Dieu pour essayer de tromper Jésus. Et ça nous montre quelque chose qui est intéressant. La parole de Dieu, dans la bouche du diable, devient la parole du diable. C'est intéressant, hein? Mais Jésus ne se laisse pas impressionner. Il est écrit une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, arrière de moi, Satan, dégage. Nous sommes appelés à faire ça, mes amis. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand tu vas en Afrique, et que une assemblée de centaines de personnes, et tu dis combien de gens parmi vous connaissent 50 versets par cœur, et j'ai appris au général. Levez la main, personne ne lève la main, alors tu descends, 40, 20, 35, 5. À partir de 5, tu as le pasteur et un des anciens qui lève la main. J'ai dit, mais comment vous voulez demeurer dans la parole, comment vous voulez découvrir la liberté si vous n'en connaissez pas les clés? C'est mission impossible. Et on devient des gens qui sont dans la plainte. Seigneur, tu vois, et tu expliques tous tes problèmes à Dieu parce que tu te dis que peut-être il a raté un épisode là. Mais c'est pas ça. Si vous demeurez dans ma parole, et je vais encore revenir sur Jean 14. Est-ce que vous connaissez Jean 14? Le cep et les sarments. Je suis le cep, dit Jésus, vous êtes les sarments. Et là, si tu t'arrêtes en milieu au verset 7, je crois, on est un petit peu mal parce que Jésus dit, tout sarment qui ne demeure pas attaché au cep, il sèche, il va sécher, on va le couper, on va le jeter au feu. Il brûle. Et là, tu comprends, on n'a pas le temps pour trop approfondir ça, mais tu comprends qu'il faut vraiment rester attaché au cèpe. Le cèpe, c'est la parole. Rester attaché à la parole de Dieu. Et dans le verset 7 ou 8, je ne sais plus, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. Mes paroles demeurent en vous. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais vous interpeller quant à votre rapport à la parole de Dieu. Et je vais juste finir par ce témoignage ici, de la survie à la vie. Ce témoignage, il raconte l'histoire d'une femme qui est née dans une famille chrétienne, j'en ai parlé hier soir, abusée par son père, et elle l'a payé très, 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 très cher. Elle a été malade, elle a eu toutes sortes de maladies, elle prenait 11 médicaments par jour, elle a fait fibromyalgie, ça c'est encore un détail, elle a fait des suites, des maladies nerveuses, maux de tête, migraine pendant 50 ans, migraine, insomnie, scoliose, enfin, quand elle est arrivée chez nous, elle nous a fait la liste. Au bout de 5 minutes, on l'a interrompu, on a dit, écoute, dis-nous plutôt ce qui fonctionne chez toi, on va gagner du temps. Et cette femme, elle était engagée pour le Seigneur toute sa vie. Elle est arrivée chez nous à 64 ans, engagée pour le Seigneur, elle était missionnaire pendant 13 ou 14 ans, elle a servi dans l'église, servi. Et elle était constamment, en 50 ans, elle n'a pas connu un moment, un instant où elle a pu dire zéro douleur. Ça n'existait pas. Et quand elle est arrivée chez nous, je raconte tout ça dans les détails, on lui a parlé de la parole de Dieu qu'elle connaissait aussi bien que nous. Aussi bien que nous. Les versets qu'on lui a cités, elle les avait lus une fois, deux, cinq, dix, vingt, cinquante fois. C'était resté là-haut et elle n'avait pas, percuté, comme elle dit elle-même, la pièce n'était pas tombée, elle était restée quelque part. Elle n'avait pas percuté. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la parole de Dieu en pratique? Mettez en pratique ma parole, dit Jésus, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et on lui a appris comment mettre la parole de Dieu en pratique. Elle a vécu des miracles, des guérisons, toute une série de miracles de guérisons sur 5 mois. Quelque chose qui était déjà extraordinaire. Où sur 5 mois, elle a récupéré ses heures de sommeil. Alors qu'elle était avec des problèmes de migraine épouvantables depuis 50 ans, le problème a été réglé en 3 jours. Mais elle était dépendante du médicament qu'elle prenait depuis un quart de siècle. Un médicament, c'est une drogue. Je veux dire, c'était très, très, très fort. Elle osait en prendre jusqu'à 8 par mois. Elle en prenait parfois 3 par jour. Et elle a été sevrée comme ça. Sans problème. Elle a vécu une série de miracles extraordinaires. 5 mois jusqu'au jour. Après 5 mois, elle se rend chez son principal médecin, avec plusieurs psychiatres, etc. Son médecin de la douleur qui faisait des injections pour qu'elle puisse survivre. Elle se rend chez son médecin pour lui dire, écoutez docteur, merci pour vos bons et loyaux services. Je n'ai plus besoin de vous. Elle le quitte, elle descend du train à la gare la plus proche. Elle monte sur son vélo. Et puis elle a 3 km à faire jusque chez elle, sur une piste cyclable, au milieu des champs. Et elle se retrouve dans l'ambulance, polytraumatisée, 11 fractures, trauma crânien, hémorragie intracrânienne, avec du sang qui coule d'une oreille, et en une fraction de seconde dans un accident inexpliqué. On ne sait pas ce qui s'est passé sur cette piste cyclable bitumée, donc à tapis, hein, au milieu des champs, et tu te retrouves fracassé. Et en un instant, elle perd tout. Tout ce qu'elle avait récupéré pendant les 5 derniers mois, fraction de seconde, elle perd tout. Et là, elle vit un miracle. Alors, je ne vous raconte pas la suite. Non, mais c'est une histoire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que cette femme vit. Mais elle a vécu tout ça. Mes amis, et je vais conclure par ça. Elle a vécu tout ça, non pas parce qu'elle est arrivée chez de grands ministères qui ont pu prier au nom de Jésus et dire « Le Seigneur me montre que... » Voilà, c'était pas du tout ça. Elle a appris à s'accrocher à la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'elle connaissait en théorie est devenue pratique dans sa vie. C'est devenu une arme, c'est devenu l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, on a dans Éphésiens 6, on a toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. La parole de Dieu nous dit, prenez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Prenez toutes les armes. Toutes les armes défensives, casque, cuirasse, bouclier, etc. Mais par-dessus tout, sortez l'épée de l'esprit. Ça, c'est pas fait pour se défendre. C'est fait pour attaquer. Et là, elle a compris cela. Et elle a vécu une transformation extraordinairement exceptionnelle, divine. Mais mes amis, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à ça. J'aimerais vous encourager à travers ce livre-là. On explique bien. Je termine par ce témoignage. J'étais bègue pendant 46 ans. Ça fait quand même une partie de vie, hein, j'ai 65 ans, voilà. Et il a fallu, pendant ces 46 ans, il y a eu 27 ans de vie chrétienne, où j'étais évangéliste, où parfois j'avais d'énormes problèmes, les mots ne sortaient pas. Et les mots, les temps où les mots sortaient le plus difficilement, c'était quand j'étais en interview, radio et TV. Et j'ai vécu des grands moments d'humiliation, de solitude, des grands moments, voilà. Et un jour, j'avais 52 ans, une parole m'a impacté, une parole que je connaissais depuis longtemps, j'avais lu ça X fois. Marc 11, 26. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez d'abord et vous verrez s'accomplir après. Ça, c'est la théorie. La pratique, j'ai mis 27 ans à la comprendre. Mais quand je l'ai comprise, et ça, je l'explique dans le livre, quand je l'ai comprise, je suis rentré dans cette dynamique de mise en pratique de la parole, ce qu'on a vécu avec notre ami là, ce qu'on vit avec plein d'autres personnes. Et Dieu est intervenu à travers sa parole. Alors ça, je l'explique avec toutes sortes, tout mon témoignage, j'explique comment ça s'est passé, tout ça. J'aimerais vous encourager justement à lire ce livre, à le propager autour de vous. C'est pour ça qu'on donne toutes nos productions gratuitement. Mes amis, c'est tellement impactant. Parce que si je suis enfant de Dieu, si Dieu m'aime, si Jésus a tout accompli à la croix, ben, il y a peut-être autre chose pour moi que de vivre prisonnier, de vivre dans la peur, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Je termine juste par un texte dans Romains 8, les versets 15 à 17. Je suis presque dans les temps. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Romains 8, 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage. Vous êtes encore dans la crainte, dans la peur. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père », on a chanté tout à l'heure. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et à la fin, il y a à nouveau cette petite note de musique qu'il faut vraiment considérer. Si toutefois nous souffrons avec lui, et pour sans prendre le temps de trop expliquer, je traduis cette phrase différemment. Si, comme Christ, nous rentrons dans l'obéissance à la parole de Dieu, parce que les souffrances de Christ, ce sont son obéissance, c'est son obéissance qui l'a amené à souffrir sur la croix. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes adoptés, nous sommes enfants, nous sommes héritiers, nous avons instantanément accès à l'héritage céleste, à l'instar du brigand sur la croix, instantanément, un sale type, un meurtrier, un assassin, tout ce que vous voulez, instantanément, il est sauvé. L'héritage céleste, tu le reçois quand tu demandes pardon pour tes péchés, tu le reçois comme ça. C'est fini, c'est comme ce qu'on a imagé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre héritage ? Il y a un héritage terrestre, mes amis. Et l'héritage terrestre, tu ne le reçois pas comme ça. Tu vas le chercher avec l'épée, la parole de Dieu. Tu vas au combat, tu vas voir ton ennemi, tu affrontes ton ennemi. Et avec la parole de Dieu, tu dis, hé, restitue, ça m'appartient. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi je suis enfant de Dieu ? Parce que je marche dans l'obéissance à la parole. Et là, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas chasser Des démons, il y en a, j'en ai vu. On l'a pratiqué aussi, Seigneur, pardonne-nous. Mais le combat spirituel, c'est d'être armé de la parole de Dieu, la parole de Dieu dans sa bouche, pour qu'il devienne l'épée de l'esprit avec laquelle tu vas faire taire l'adversaire et tu vas conquérir l'héritage qui t'a déjà été donné à la croix par Jésus. Seigneur, merci de nous révéler. J'ai dit beaucoup de choses ce matin, Seigneur. On va vraiment te demander cette révélation nouvelle de ce que toi tu veux pour nous. Toi tu veux pour chacun de tes enfants. Tu es venu pour porter de bonnes nouvelles pour malheureux, délivrer les captifs, libérer les prisonniers. En tant que Père, tu fais de nous tes héritiers. Tu as un héritage pour nous, un héritage terrestre. Et je prie, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs ici présents puisse comprendre, saisir et apprendre à conquérir cet héritage. Et c'est lorsque nous rentrons dans la conquête de cet héritage, nous obéissons à ta parole, nous mettons en pratique la parole, lorsque nous marchons par la foi, que nous te sommes agréables, que nos louanges te sont agréables, Seigneur. Merci de te révéler tout à nouveau de façon puissante pour chacun, chacune de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen.